Je ne sais pas vous, mais pour ma part, j'aime beaucoup les salles d'attente pour une raison bien particulière, c'est qu'il y a des magazines. Et en général, ces magazines, je ne les ai pas chez moi. Et depuis que le coronavirus a commencé, je ne sais pas si vous en êtes rendu compte, mais tous les magazines ont été retirés pour ne pas être vecteurs de contamination. Et je trouve ça dommage parce que ces magazines, je les trouvais toujours instructifs, instructifs sur la société dans laquelle nous vivons. Par exemple, chez mon médecin, je trouvais toujours des magazines sur les voitures. Il y avait aussi toujours des magazines sur les maisons de luxe. Et puis, il y avait toujours aussi quelques magazines féminins. Et pour tous ces types de magazines, je me suis demandé si ce n'était pas en fait le même combat à chaque fois. Même combat. Avoir la plus belle voiture, avoir la plus belle maison, et avoir eh bien, le plus beau ventre plat pour les femmes, et puis en général, c'est les plus beaux pectoraux pour les mecs. Mais à bien y réfléchir, on n'a jamais la plus belle voiture, ni la plus belle maison, ni un ventre plat ou des pectoraux parfaits comme ne peuvent l'avoir les mannequins. Bon, par exemple, moi, avec mon salaire de pasteur, la plus belle voiture, je peux déjà laisser tomber, la plus belle maison également. Qu'est-ce qu'il me reste ? Alors, il me reste les pectoraux. Et quand je pense à ça, ça me fait penser à toutes ces tonnes de fonte que je vais devoir soulever pour en arriver là. Et vous, mesdames, est-ce que vous pensez à toutes ces privations qui vont être les vôtres avant l'été prochain, avant de pouvoir rentrer dans votre bikini pour les vacances ? Alors je caricature, mais parfois je me demande si je caricature à peine. Ces revues, elles jouent sur un levier qui est en nous. Elles nous renvoient à un mal qui nous est tous connu et qui nous ronge de l'intérieur. Et ce mal, c'est que nous nous comparons sans cesse les uns avec les autres. On se demande toujours ce que les autres pensent de nous. On veut exister, on veut exister dans le regard de l'autre. Et la question qu'on se pose, c'est où est-ce qu'on est dans le regard de l'autre ? Est-ce qu'on est bas ? Est-ce qu'on est haut placé dans le regard de l'autre ? C'est même notre obsession humaine, savoir ce que les autres pensent de nous et tout faire pour qu'ils aient une haute opinion de nous-mêmes. On vit en permanence dans une sorte de compétition. Dans le récit de ce matin, on pourrait avoir l'impression que ce sont des paroles de Jésus qui n'ont pas de lien les uns avec les autres, mais on va voir que ce n'est pas le cas, on va voir que tout est lié dans les propos de Jésus. Le but de Jésus, il est simple. Le but de Jésus, c'est de nous montrer qu'on se trompe de combat. On se trompe de combat. Si on veut exister dans le regard des autres, on a tout faux, nous dit Jésus. Il nous montre que l'importance, ce n'est pas d'exister dans le regard de l'autre, mais de faire exister l'autre dans notre regard. Et il nous dit aussi que l'importance, ce n'est pas le verdict favorable des autres envers nous, mais le verdict favorable de Dieu envers nous. Et ça change fondamentalement notre existence. Et on va voir ça ensemble. Alors on va suivre les deux parties de notre passage. D'abord les versets 33 à 42. On va voir les préoccupations des disciples, les préoccupations qui ne sont pas bonnes des disciples. Et ensuite les versets 43 à 50, on va regarder les préoccupations divines de Jésus. Donc on va commencer avec les préoccupations des disciples. Les disciples, eh bien, ils mènent des faux combats contre les autres. Ces faux combats, bien sûr, c'est de se comparer avec les autres, sans arrêt. Se comparer à la fois en interne et aussi en externe. Ce sont ces deux parties qu'on va voir. On va d'abord voir en interne. Verset 33, « De quoi avez-vous discuté en chemin ?» Et là, les disciples sont gênés et ils n'osent pas répondre à Jésus parce qu'en chemin, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils se demandaient, ils se taisaient durant le trajet, ils avaient discuté pour savoir lequel d'entre eux était le plus grand. Et vous vous rendez compte que même au sein des amis de Jésus, la concurrence est là. Qui est le plus grand ? Et c'est une question qui nous concerne tous. C'est même probablement la question sur laquelle est fondée notre société, vu que partout où on passe, même si on se dit une société égalitaire, partout où on passe, on est jugé en permanence. On est mis à un niveau, sur une échelle de valeur par rapport à d'autres personnes. Il y a un ordre entre les êtres humains. Sur des questions basiques, dont j'ai un peu parlé en introduction, hein, qui est le plus beau, qui a le meilleur salaire, qui a la plus belle voiture, qui a la plus belle maison, qui a eu la meilleure note au bac. Et puis, en interne église, on peut aussi se comparer les uns aux autres. Qui chante le mieux ? Ça, c'est pour les chanteurs. Qui est le plus serviable ? Qui prêche le mieux ? Ça, c'est pour les prédicateurs. Qui joue le mieux de la guitare ? Alors que chacun puisse exprimer ses dons au service de Dieu et au service de la communauté, ça c'est bien, c'est normal, c'est ça l'Église. C'est un corps dans lequel tout le monde a sa place. Mais malgré tout, est-ce qu'il n'y a pas au fond de nous-mêmes l'idée inconsciente, hein, mais l'idée quand même d'être valorisé pour qui on est. Être valorisé pour qui on est, être le meilleur. Et même nous les pasteurs, on se compare les uns aux autres. Quand je vous vois là tous ce matin, je me dis que les prédécesseurs, Karel, Flavien, Eric, ont fait du bon boulot visiblement. Et c'est là qu'il y a un risque pour moi de vouloir exister dans votre regard. La peur de ce que vous allez vous souvenir de moi plus tard. Est-ce que je vais être le pasteur qui aura tout foutu en l'air après Karel, Flavien et Eric ? Vous voyez comment personne n'échappe à cette comparationnite qui est là. Mais ce débat de savoir qui est le plus grand, il est inapproprié. Pourquoi ? Parce qu'il suffit juste de lire le passage qui vient juste avant notre passage. Et qu'est-ce qui se passe dans le passage juste avant ? Eh bien, Jésus vient d'annoncer pour la deuxième fois, il vient d'annoncer sa mort pour nous sauver. Vous voyez comment Jésus vient d'annoncer son abaissement. Et immédiatement après, qu'est-ce qui se passe ? Les disciples parlent de leur grandeur. Vous voyez le grand écart ? Jésus vient d'annoncer son abaissement, juste avant notre passage. Alors Jésus, il utilise cette opportunité, il utilise ce plantage des disciples pour pouvoir leur enseigner sur ce qu'est la vraie grandeur. La vraie grandeur, vous la trouverez au verset 35 à 37. Si quelqu'un désire être le premier, qu'il se fasse le dernier de tous et le serviteur de tous. Puis il prit un petit enfant par la main, le plaça au milieu d'eux, et après l'avoir serré dans ses bras, il leur dit « Si quelqu'un accueille en mon nom un enfant comme celui-ci, il m'accueille moi-même. Et celui qui m'accueille, ce n'est pas moi seulement qui l'accueille, mais aussi celui qui m'a envoyé. » Jésus est en train de redéfinir pour nous la vraie grandeur. Il n'est pas en train de dire que viser la grandeur, c'est mal. Non, non, viser grand, c'est très bien. Mais il ne faut pas se tromper de grandeur. La vraie grandeur, nous dit Jésus, elle n'est pas définie par ce que les autres pensent de moi. La vraie grandeur, elle est définie par ce que moi, je pense des autres. Le regard que moi, je porte sur les autres. Et comme exemple, Jésus prend ici l'exemple de quelqu'un qui ne comptait pas à l'époque. Il prend un enfant. Alors c'est vrai que ça peut nous paraître un peu incongru comme exemple, parce qu'aujourd'hui, nous, c'est la politique de l'enfant roi, mais à l'époque, c'était le contraire. Les enfants n'étaient rien, ils n'étaient qu'une bouche à nourrir jusqu'au jour où ils allaient enfin pouvoir travailler et rapporter un peu à la maison. Si tu veux être grand, nous dit Jésus, arrête donc de tout ramener à toi. Si tu veux être grand, arrête d'être obsédé par le regard des autres, arrête d'être obsédé par ce que les autres pensent de toi, mais commence plutôt à regarder les autres. Regarde les plus petits, regarde les plus faibles, regarde ceux qui ne peuvent rien t'apporter de particulier et mets-toi à leur service. Ce sera comme se mettre au service de Dieu. Un petit résumé de ce qui s'est passé en interne, ce faux combat en interne des disciples qui réfléchissent à qui est le plus grand. Ils veulent exister dans le regard de l'autre, mais Jésus les reprend. Il s'agit plutôt de faire exister l'autre dans mon regard. C'est ça, la vraie grandeur. Donc ça, c'était pour les combats en interne, mais il y a le même combat en externe, vous allez voir. Jean, l'apôtre, l'ami de Jésus, pensait avoir le monopole de l'exorcisme. Mais si vous relisez le verset 38, « Maître, nous avons vu quelqu'un qui chassait les démons en ton nom. Nous lui avons dit de ne plus le faire, parce qu'il ne nous suit pas. » C'est quoi le souci de Jean ici ? Le souci de Jean, c'est « parce qu'il ne nous suit pas ». Jean ramène tout au groupe des disciples. Ça, c'est pas une soif de la gloire de Dieu, non. C'est plutôt la peur que quelqu'un d'autre leur fasse de l'ombre. C'est encore finalement la question de savoir qui est le plus grand, même en externe. Et là aussi, Jésus a une réponse. Versets 39 et 40. « Ne l'en empêchez pas, répondit Jésus, car personne ne peut accomplir un miracle en mon nom et aussitôt après dire du mal de moi. Celui qui n'est pas contre nous est pour nous. » La vraie question, ce n'est pas donc de savoir qui est le plus grand, de savoir si cette personne-là va faire de l'ombre au groupe des disciples. Non, la vraie question, c'est de savoir est-ce qu'il fait partie ou pas de la même équipe. Et s'il fait partie de la même équipe, laissez-le travailler de son côté, aucun problème. Et c'est le cas ici. Cette personne-là fait bien partie de la même équipe. Ça m'a fait penser un peu à cette tendance qu'ont toutes les églises de se comparer les unes aux autres, plutôt que de se soucier de ceux qui n'ont jamais entendu parler de Jésus. En fait, non, les autres églises sont dans le même camp que nous, jusqu'à un certain point. Quel est ce point à ne pas franchir ? Quel est ce point à reconnaître pour savoir si on est ou pas dans le même camp que les autres ? Eh bien, Jésus, là aussi, nous donne des pistes. Verset 40 déjà, « Celui qui n'est pas contre nous est pour nous. » Et il y a aussi le verset 42. « Si quelqu'un devait faire tomber dans le péché l'un de ces petits qui croient en moi, il vaudrait mieux pour lui qu'on lui attache au cou une de ces pierres de meule que font tourner les ânes et qu'on le jette dans le lac. » Autrement dit, tous ceux qui se revendiquent chrétiens ne l'est pas nécessairement. Et vous voyez que Jésus n'est pas tendre avec les personnes qui égarent en son nom. Et c'est vrai, il faut le reconnaître, il y a des organisations chrétiennes ou qui se revendiquent chrétiennes qui conduisent les gens dans l'erreur, qui conduisent les gens dans la confusion, voire même dans le péché. Celui qui fait trébucher l'autre au moyen de l'évangile va le payer cher, nous dit Jésus. Alors j'ai réfléchi à des exemples concrets, mais je vous avoue que c'est assez difficile de se positionner, de trouver des exemples. Je me suis demandé si les scandales de pédophilie, de prêtres pédophiles dans l'Église catholique ne relevaient pas de ça. Des gens qui ont utilisé leur poste, leur ministère, leur fonction, leur place, pour pouvoir commettre des horreurs au nom du Christ. Et tout ça, ça fait quoi ? Ça contribue à jeter un discrédit complet sur la foi chrétienne. Mais plus globalement, combien de personnes ont rejeté Christ à cause d'un prêtre, d'un pasteur ou juste d'un chrétien ? Et là, il faut bien reconnaître qu'on est tous concernés par la question. Comment devrions-nous agir ? Comment devrions-nous nous comporter les uns avec les autres pour ne pas en arriver là ? Réponse de Jésus au verset 41. Si quelqu'un vous donne à boire en mon nom, ne serait-ce qu'un verre d'eau, parce que vous appartenez au Christ, vraiment, je vous l'assure, il ne perdra pas sa récompense. Jésus nous encourage à nous accueillir mutuellement dans la bienveillance, et ces services que nous rendons, comme juste donner un simple verre d'eau, ces plus petits services auront leur récompense. Les disciples critiquent donc cet homme qui exorcise sans appartenir à leur groupe. Et Jésus montre que ce qui importe, ce n'est pas d'avoir le nom dans l'organigramme, mais plutôt une bonne motivation. Et cet homme ici, dans ce cas-là, il avait une bonne motivation. Il était là pour servir Christ et pour exorciser en son nom. Plutôt que de se tirer dans les pattes, Jésus les encourage à se servir mutuellement. Même le plus petit service ne perdra pas sa récompense, nous dit Jésus. Par exemple, ceux qui ont accueilli à l'entrée ce matin sont tout aussi grands que ceux qui ont pris la parole du haut de la chair. Ils ne perdront pas leur récompense. Voilà pour ce deuxième faux combat des disciples en externe qui ont peur que cet exorciste leur fasse de l'ombre alors qu'en fait, il est juste dans le même camp. Ça, ce sont les mauvaises et fausses préoccupations des disciples qui sont également les nôtres. Savoir qui est le plus grand. Et dans la deuxième partie de notre texte ce matin, Jésus nous révèle les préoccupations de Dieu, qui sont complètement différentes que celles des disciples. Cette fois-ci, c'est Jésus qui prend l'initiative pour parler de ce qui compte le plus pour lui. Et il nous parle du vrai combat que nous avons à lutter contre nous-mêmes, chacun. De quoi est-ce qu'il va parler, Jésus ? Eh bien, il va parler de l'enfer. On relit le passage ensemble. Si ta main te fait tomber dans le péché, coupe-la. Car il vaut mieux pour toi entrer dans la vie avec une seule main que de garder les deux mains et d'être jeté en enfer dans le feu qui ne s'éteint jamais. Si ton pied te fait tomber dans le péché, coupe-le. Car il vaut mieux pour toi entrer dans la vie avec un seul pied que de garder les deux pieds et d'être jeté en enfer. Si c'est ton œil qui te fait tomber dans le péché, jette-le au loin. Car il vaut mieux pour toi entrer avec un seul œil dans le royaume de Dieu que de garder les deux yeux et d'être jeté en enfer, où le ver rongeur ne meurt point et où le feu ne s'éteint jamais. Waouh ! Jésus parle de l'enfer, il nous parle de l'enfer à travers ces 2000 ans qui nous séparent. Et nous, on est dans une situation compliquée parce qu'on est dans une situation où, pour nos contemporains, l'enfer n'existe pas. L'enfer n'existe pas, ou l'enfer serait un mythe, voire même l'enfer serait un lieu devenu un sujet de rigolade, un lieu cool, un lieu branché. Mais quand on regarde ce que Jésus en dit, ça fait plutôt frémir. Qui parle le plus de l'enfer dans la Bible ? C'est Jésus. Et juste démonstration ici, en quelques versets, vous avez trois fois en enfer que j'ai souligné ici, dans le texte. C'est vrai que l'enfer, c'est compliqué pour nous d'y voir clair sur ce que c'est. Il y a plusieurs fausses images qui circulent sur l'enfer. L'enfer, c'est pas un barbecue géant. L'enfer, c'est pas non plus un lieu où le diable serait le chef. Le chef des enfers, c'est bien Dieu, et le diable n'est que le premier locataire des enfers. L'enfer, c'est tellement au-delà de notre compréhension que Jésus est obligé d'utiliser deux images ici. Ces deux images que j'ai mises en jaune. Vous voyez ? Le feu qui ne s'éteint jamais, ou le ver rongeur qui ne meurt point. Deux images qui ne donnent pas trop envie. Pourquoi ? Parce que dans les deux cas, il y a l'idée de quoi ? Il y a l'idée d'une souffrance qui ne s'arrête jamais. Alors il faut qu'on creuse là, il faut qu'on comprenne exactement ce dont il est question ici. De quel type de souffrance il s'agit quand Jésus parle d'un feu qui s'éteint jamais et d'un ver qui continue à ronger en permanence. C'est Jésus lui-même qui nous donne des pistes de solutions ailleurs dans l'Évangile. Il parle de pleurs, de grincements de dents et d'amers regrets. Et il faut mettre ça en parallèle parce que dans ces passages où il parle de pleurs, de grincements et d'amers regrets, Jésus parle aussi d'enfer. Et l'apôtre Paul complète en nous disant « Un jour, l'univers entier sera réconcilié totalement avec Dieu. Tout genou fléchira devant Jésus. » Et là, on est face à un problème. Parce que être réconcilié avec Dieu, les croyants le sont déjà. Ils sont déjà en paix avec Dieu. Pourquoi ? Parce que Christ a payé à leur place sur la croix. Mais les non-croyants, eux, eh bien, ils ne sont pas encore réconciliés avec Dieu. Ils sont même plutôt, pour certains, en guerre ouverte contre lui. D'autres sont en guerre avec lui sans le savoir, sans le reconnaître. Mais en tout cas, les non-croyants ne sont pas encore réconciliés avec Dieu. Et les propos de Paul, qui dit qu'un jour tout le monde, l'univers entier sera réconcilié avec Dieu, eh bien, ça nous fait penser que ils le seront plus tard, réconciliés avec Dieu. Et si on associe tout ça avec ce que dit Jésus ici, ben on tombe sur les non-croyants seront réconciliés avec Dieu comment ? Eh bien, quand ils reconnaîtront la justesse du jugement qui s'abattra sur eux. Mais il sera trop tard à ce moment-là. D'où les amers regrets, les pleurs, les grincements de dents. D'où, eh bien, le feu qui ne s'éteint jamais, le feu de la culpabilité qui ronge. Le ver rongeur qui ne meurt jamais. C'est le ver du remords d'avoir lutté contre Dieu pendant toute son existence. Et pourquoi Jésus nous dit ces... Pourquoi Jésus il dit ça là ? Ça paraît franchement horrible. Mais en fait, à bien y réfléchir, c'est plutôt une marque d'amour de sa part. Il nous interpelle pour qu'on prenne vraiment au sérieux la menace. Il nous interpelle pour que nous changions, pour que nous puissions nous réfugier sous sa protection. La protection de Jésus, c'est la seule protection contre l'enfer pour nous. Et puis, il nous donne aussi ce type de passage pour nous en Église, pour qu'on puisse aller et parler de Jésus à ceux qui n'ont jamais entendu parler de lui, pour qu'ils puissent eux aussi être sauvés. Si je devais comparer ce passage-là sur l'enfer, ça me fait penser un peu aux grandes campagnes de publicité contre le tabac. Vous savez, maintenant, sur les paquets de cigarettes, on vous montre un poumon abîmé. On vous montre une partie du corps qui a été abîmée par le tabac. Ou les grandes campagnes pour la prévention routière, quand on vous montre des images d'accidents de voiture catastrophiques. C'est le même type de propos ici de la part de Jésus. Jésus nous fait une campagne choc pour qu'on puisse changer. Parce que ces campagnes choc contre le tabac, elles marchent en partie. On sait que suite à ces campagnes, des gens ont arrêté de fumer. Et puis, quand on voit des accidents de voiture sur nos écrans, qu'est-ce qu'on fait ? On lève le pied. On accroche sa ceinture, on prend pas son téléphone au volant, on roule moins vite. En général, les plus actifs dans ces campagnes de prévention, ce sont les proches des victimes, parce qu'ils savent par où ils en sont passés. Alors qu'est-ce que ça change pour nous de savoir que c'est bien une question de vie ou de mort ? Eh bien, ça a conduit à une solution qui est radicale, au plus grand mot, les grands remèdes, et ça fait mal. Regardez ce que dit Jésus. Alors, il le dit de façon imagée, on va l'expliquer après. Si ta main te fait tomber dans le péché, coupe-la. Si ton pied te fait tomber dans le péché, coupe-le. Si c'est ton œil qui te fait tomber dans le péché, jette-le au loin. Coupez la main, coupez le pied, jetez l'œil au loin. Pourquoi ? Parce que notre vie en dépend. Si tu te retrouves aux urgences, et après par exemple un accident de voiture, et qu'on te dit qu'il faut te couper le bras, je suppose que tu ne vas pas avoir très envie de donner ton accord. Mais si on t'explique que si on ne le fait pas, alors tu vas mourir, très certainement que tu donneras ton accord. On en est là aujourd'hui dans notre lutte contre le péché, dans nos vies. Si on temporise, si on tergiverse, alors ça nous montre une chose, ça nous montre que ce n'est pas Jésus que nous aimons, c'est notre péché dans lequel nous nous complaisons. Si on temporise dans notre lutte contre le péché, ça montre que notre sécurité et notre plaisir ne sont pas en Dieu, en Jésus, mais plutôt dans le péché dans lequel nous continuons à vivre. Si Jésus nous choque, c'est pour que nous comprenions que c'est dangereux. Un exemple, celui qui retourne dans sa maison en feu pour aller glaner quelques objets, ça serait montrer que ce qu'il a de plus cher pour lui, ce n'est pas sa vie, mais les 2-3 babioles qu'il a laissées dans sa maison en feu. Ou encore, ça serait comme s'amuser au sommet d'un précipice. Et c'est peut-être précisément là où on se trouve ce matin. Accro à toutes sortes de substances. Quelles sont ces substances à laquelle nous pouvons être accros? Alcool, drogue, shopping, approbation des autres, sexe en dehors du mariage, travail, mensonge, sport. En fait, la liste est juste infinie. Parce que tout dans la vie, même les plus belles choses, peuvent venir prendre la place de Dieu. Tout peut devenir une idole à laquelle on se raccroche. Ben, si on tient à notre vie, nous dit Jésus, il y a une seule solution, une seule réponse qui s'impose, couper. Et ce n'est pas une demi-mesure. C'est cela, renoncer à soi-même. Autre propos de Jésus, renoncer à soi-même. Alors si ce matin tu sais qu'il y a besoin d'agir dans ta vie, si tu as besoin d'aide, et si tu ne sais pas comment t'y prendre, ne pars pas d'ici sans en avoir parlé avec quelqu'un. Il y aura quelqu'un à la table d'accueil, par exemple. Il faut couper parce qu'il en va de notre vie. Et je voudrais vous encourager à le faire. Pourquoi ? Parce que vivre avec Christ, ça compense toutes nos pertes. Vivre avec Christ, ça nous libère de nos idoles. Ces idoles qui nous tiennent en esclavage. Christ, il veut notre bien en disant ça. Il ne veut pas notre mal. Nous pouvons lui faire confiance. Il sait mieux que nous ce dont nous avons besoin. C'est Dieu, notre Créateur. Christ a donné sa vie pour nous sauver, pour nous libérer. Et pour bénéficier de ce salut, il nous demande de venir à sa suite. Alors oui, c'est vrai, on dit souvent que c'est gratuit, le salut est gratuit, Jésus a donné sa vie à notre place sur la croix, mais l'accepter, ça a un coût. Et ce coût, c'est de renoncer à nous-mêmes. Nous repentir, nous détourner de ces idoles qui sont les nôtres, pour nous tourner vers Jésus, pour nous tourner vers lui, pour nous tourner vers Dieu et lui faire confiance. Quelques mots de conclusion. Deux changements dans les paroles de Jésus pour nous ce matin, à travers ce récit. Le premier changement, c'est de renoncer à ces faux combats qui sont les nôtres, sans arrêt. Ces faux combats, on en a parlé, c'est de savoir qui est le plus grand. Nous comparer sans cesse aux autres. Renonçons à ces faux combats qui sont les nôtres. Et le deuxième changement, c'est de nous engager dans le vrai combat. Et ce vrai combat, il n'est pas contre les autres, il est contre nous-mêmes. Contre le propre mal, notre mal, qui est tapis au fond de notre cœur. Nous engager dans le combat mortel contre le péché, parce que notre vie en dépend. Mais il n'y a pas que notre vie personnelle qui dépende de ce combat. Il y a aussi la vie de l'Église de Jésus-Christ. Parce que si on ne renonce pas à se comparer les uns aux autres, si on ne renonce pas à notre péché, eh bien c'est la paix entre nous tous qui va être fragilisée. Et je ne sais pas si vous aviez remarqué les dernières paroles de Jésus, et ce n'est pas banal. Comment Jésus termine-t-il ce passage ? Soyez en paix les uns avec les autres. Et oui, c'est vrai que la comparaison tue. Elle tue les églises, et pas que. De même que le jugement, la critique, la plainte, la calomnie, le mensonge, la jalousie. Voilà des mots, M-A-U-X, qui peuvent tuer nos églises. Et Jésus nous dit, vivez plutôt en paix les uns avec les autres. Alors, on vient de boucler cette boucle. Il y a 7 semaines, nous commencions cette série de méditations dans le thème « Les uns, les autres ». Et je voudrais vous proposer une petite révision. Je sais que certains d'entre vous n'étaient pas là, donc ils ont besoin de comprendre ce que nous avons vécu ensemble depuis 7 semaines. Je vous laisse parler. C'était quoi ça ? Une vitrine, oui, pour parler de quoi ? Faire envie ? Oui, c'était associé à quelle thématique ? Est-ce que vous vous en souvenez ? S'aimer les uns les autres. Pourquoi ? À cause des paroles de Jésus. Quand nous nous aimons les uns les autres. Vous vous souvenez, à ceci, à l'amour que vous aurez les uns pour les autres, tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples. Quand nous nous aimons les uns les autres en interne église, nous sommes comme une belle vitrine de bonbons Haribo qui donne envie aux autres. C'était la première thématique que nous avions étudiée. Deuxième. On est plus forts les uns avec les autres. Et on était invités à s'accueillir mutuellement dans nos faiblesses. L'idée, c'était que chaque petite brindille, elle casse facilement quand elle est prise isolément. Mais quand elle est rassemblée dans un fagot et nouée comme ça dans un fagot, ça devient incassable, un fagot de bois. Donc, si nous nous accueillons mutuellement avec nos faiblesses, eh bien, nous deviendrons plus forts. Et nous pourrons croître, progresser. Et c'était bien le progrès aussi, la thématique du troisième culte. Est-ce que vous vous souvenez ? Le cocon qui joue dans deux sens. Vous vous en souvenez ou pas ? Lieu de transformation, comme le papillon qui se prépare à naître, exactement. Et le deuxième point de ce cocon, pardon ? Se sentir bien, exactement. L'Église, les uns les autres, quand nous nous encourageons, quand nous parlons de notre espérance qui est commune, eh bien, ça nous fait tenir, ça nous protège comme un cocon. Mais en même temps, quand nous nous exhortons à faire le bien, quand nous nous reprenons quand quelqu'un fait le mal, nous sommes amenés à progresser en sainteté. Voilà. À la fois, encouragez-vous dans l'espérance qui est la vôtre, et en même temps, exhortez-vous à faire le bien. Cocon de protection et cocon de progression. Le quatrième dimanche, nous avions vu... Pardon ? Céder, oui. Servir. Soumettez-vous les uns aux autres. Dans cette boucle que Florian nous avait montré, cette boucle réciproque où la soumission et l'amour les uns pour les autres viennent se renforcer mutuellement pour progresser ensemble. Qu'avions-nous vu ce jour-là ? Pardonner. En tant que frères et sœurs en Christ, nous sommes appelés à nous supporter mutuellement dans nos différences et à nous pardonner mutuellement. Pourquoi ? Parce que Christ, Dieu, nous a pardonnés et nous sommes invités à faire de même les uns envers les autres. Ne pas faire de même montrerait que nous ne sommes pas un disciple du Christ. Mais là, je résume à grands traits. La semaine dernière, c'est plus frais. Le petit jardinier, oui. C'était pour jardiner quoi alors ? Prier. Prier et veiller les uns sur les autres. Exactement comme un jardinier prend soin de son jardin, eh bien nous, on est appelés à imiter notre grand jardinier Dieu et prendre soin de ces petits jardins que sont les autres autour de nous pour les aider à progresser. Et donc vous voyez comment... Alors c'est vrai que ça peut faire mal cette idée de s'ouvrir aux autres pour le laisser veiller sur nous-mêmes. Mais c'est pourtant ce que le Seigneur nous appelle à faire, à nous ouvrir aux autres pour que les autres puissent veiller sur notre foi, sur nos forces, sur nos défaillances, et qu'ils puissent prier pour nous. Et aujourd'hui, eh bien, on boucle la boucle avec cette image. Je reprends cette image tout simplement parce que c'est Jésus lui-même qui la propose, comme signe de paix. Comme signe de paix entre nous. Rien de plus simple que de s'offrir un verre d'eau. Et c'est vrai que quand on n'est pas en paix avec quelqu'un, on a du mal à lui offrir quoi que ce soit. Vivons en paix les uns avec les autres. Faisons exister l'autre dans notre regard. C'est ça la vraie grandeur. Regardez les autres et pas nous-mêmes. Et luttons contre notre propre péché. C'est là le vrai combat que chacun d'entre nous est appelé à mener. Alors peut-être que vous êtes choqué, peut-être que tu es choqué par la dureté des propos de Jésus. Et tu te dis que tu n'as aucune chance d'y arriver. Et c'est vrai qu'à vue humaine, il y a de quoi être désespéré par notre situation, par notre petitesse, par nos faiblesses. Et c'est là qu'intervient Jésus en notre faveur. Et voilà la double intervention de Jésus. Cette première intervention de Jésus, c'est la croix. À la croix, Jésus a solutionné le problème du mal qui nous sépare de Dieu. Jésus a payé à notre place pour que nous puissions être réconciliés avec Dieu. Le pardon de Dieu, il est garanti pour celui qui confesse ses fautes et qui fait confiance à Jésus. Et si nous chutons à nouveau, eh bien nous sommes invités à retourner encore vers Jésus. Il a promis son pardon quand nous nous tournerons vers lui, à chaque fois. Mais Jésus ne s'est pas contenté de nous sauver de nos fautes, il a aussi envoyé avec le Père, il a envoyé son Esprit. Le Saint-Esprit qui nous transforme, et ça, ce ne sont pas des paroles en l'air. Le Saint-Esprit nous fait prendre conscience de nos péchés et il nous équipe pour y lutter. Si tu sens dans ton cœur ce matin toutes ces tensions, si tu sens dans ton cœur ce désir de t'améliorer, si tu sens dans ton cœur ce désir de renoncer à tes idoles, à tout ce que tu sais être néfaste dans ta vie, eh bien c'est la preuve que l'Esprit de Dieu est en train de travailler dans ton cœur. Il veut faire quoi ? Il veut t'affranchir de tout ce qui t'enchaîne et il veut t'aider à mener une vie qui l'honore. Et là aussi, en tant qu'Église, on est là pour s'encourager mutuellement. Gloire au Père qui nous a aimés, gloire au Fils qui nous a sauvés, gloire au Saint-Esprit qui nous transforme. Amen.